C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
J'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Dans la perspective de ma rencontre avec mon meilleur espoir, j'ai eu envie de m'intéresser au mot « gueule ». Le mot « gueule » vient du latin « gula » qui signifie « gorge »,« bouche »,« palais » et même « gourmandise ». Et il me semble que tous ces substantifs sont parfaitement appropriés pour parler de mon meilleur espoir. Elle est portée sur la gueule, expression que je ne connaissais pas, pour dire qu'elle apprécie les plaisirs de la table. Fut un temps, elle a même tenu un blog sur sa sélection des meilleurs restaurants de Paris. Elle est forte en gueule, tous ceux qui m'ont parlé d'elle m'ont vanté sa franchise et son énergie. Elle est productrice, métier casse-gueule, dans lequel elle peut être amenée à pousser des coups de gueule, à fréquenter des belles gueules, et peut-être, elle nous le dira, à s'en prendre parfois plein la gueule. Elle a produit entre autres Tirailleurs, le film de Mathieu Vadepied avec Omar Sy. C'est l'un des plus gros succès du cinéma français en 2022, avec plus de 1,2 million d'entrées, et ça, on peut dire que ça a de la gueule. J'ai l'air de plaisanter comme ça en faisant la maline avec mon dictionnaire, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est à quel point je suis fascinée et admirative des femmes comme elle. Mon meilleur espoir se sert de sa bouche, le siège du langage, de la pensée formulée, toute la journée, pour argumenter, convaincre, encourager, résoudre les difficultés, protester s'il le faut. Elle se sert de sa bouche pour décider, pour trancher. Un peu comme la lame d'un maître sushi dans sa cuisine, sa parole doit être précise et aiguisée. On m'a parlé de ses grandes qualités de lectrice, de son respect pour les auteurs et les autrices, de son engagement sincère à réfléchir à leur côté. D'ailleurs, dans ses séances de travail, quand elle est plongée dans ses réflexions, il paraît qu'elle se touche la bouche. Elle a la langue bien pendue, mais je sais de sources sûres que c'est toujours pour être juste, notamment pour réclamer plus et mieux pour les métiers qu'on ne voit pas. Je vous propose aujourd'hui de passer un moment sans langue de bois, avec une boulimique de culture et de travail, mon meilleur espoir est... Caroline Nataf. Salut Caroline.
Salut Audrey, quel portrait.
Tu te retrouves là-dedans?
Je ne savais pas où t'allais aller, mais je trouve ça assez rigolo.
Alors, ton rapport à la nourriture?
Ah, toujours éternel, évidemment. Je ne savais pas que t'avais trouvé le blog. J'adore manger, quand je dis que je fais des régimes, tout le monde rigole en disant ça sert à quoi. Bon, voilà. Je suis fan de nourriture depuis toujours et avec une amie, une de mes meilleures amies, on avait créé ce blog en 2006 et c'était les débuts. Donc ça fait un peu, je me la raconte, mais c'était chouette. Il y avait presque personne qui faisait ça et on s'est beaucoup amusé. J'adore toujours aller au resto, j'y vais beaucoup moins, mais avant c'était n'importe quoi. Je pense que de réfléchir maintenant, on allait au resto deux fois par jour même à un moment. Mais on trouvait les bouibouis, les trucs, il y avait toujours les plans, c'était rigolo. J'avais pas autant de travail que maintenant, alors j'avais le temps de faire ça.
Ouais, tu travailles beaucoup, Caroline. Ta société de production, c'est Unité, qui a pris pas mal d'envergure depuis quelques années. Est-ce que tu dirais, c'est vraiment une question que j'ai envie de te poser sincèrement, est-ce que tu dirais qu'en tant que productrice, tu es une femme puissante?
Oh non, pas du tout. Non, je parle pas dans ces termes-là. Moi, la société, on l'a créée avec Bruno Naon, mon associé, qui évidemment est une part extrêmement importante de la société. C'est d'ailleurs lui, plus lui, qui a porté Tirailleurs, je tiens à le dire, parce que je considère que il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et parfois, il y a des gens qui considèrent que oui, ils ont fait des choses. Bon, nous, on n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on fait notre travail, mais on n'est pas en train de se dire est-ce qu'on est puissant ou pas. On pense pas du tout comme ça. Moi, j'ai l'impression que tu l'as dit dans le portrait, c'est des œuvres collectives, en fait, le cinéma ou la télévision. C'est chacun qui travaille avec chacun parce qu'il y a quelqu'un, un certain maillon qui va permettre quelque chose à la musique, à l'écriture, le chef-op, le monteur. Alors, évidemment, la monteuse, la chef-opératrice, hein, voilà. Et le ou la cinéaste, évidemment. Donc, je ne me vois pas comme ça, non, pas du tout.
Qu'est-ce que toi, tu apportes en plus à tout ça? Qu'est-ce qui te semble indispensable dans le métier de producteur et de productrice? Qu'est-ce qui ne se fait pas sans lui?
Bon, si je continuais la métaphore culinaire, c'est la mayonnaise, quoi. Ça veut dire que sinon, c'est... Si je parle de manière franche, là, comme tu disais, c'est que c'est le bordel, quoi. Ça veut dire que on peut avoir tous les ingrédients. On va prendre de la hauteur, on va prendre de la distance. J'ai une amie qui dit souvent cette phrase que je trouve assez juste, qui dit des films, est-ce qu'ils sont bien produits ou pas bien produits? Et en fait, c'est vrai que nous, ça, c'est ce qu'on voit dans les films. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire en sorte de tirer en fait l'œuvre vers quelque chose. Et évidemment, c'est le cinéaste, surtout au cinéma, en télévision, c'est beaucoup moins vrai, mais au cinéma, c'est le cinéaste qui a la vision. Mais il y a un moment, faut le soutenir, faut l'accompagner, c'est tout ce travail, en fait. Il y a une vraie cohésion à avoir qui est pas... C'est parfois compliqué, quoi. Je veux dire, il faut pas se le cacher. Ça peut être conflictuel, que ce soit avec les équipes, les acteurs, tout le monde. Et nous, on essaye de lier tout ça, de faire en sorte que ça fonctionne.
Du coup, c'est quoi, selon toi, ta meilleure qualité dans ce métier?
Eh ben, peut-être ma franchise, qui peut énerver certains et que d'autres aiment beaucoup.
Ouais, mais franchise, effectivement, c'est pas de la brutalité, quoi.
Donc, non, faut... non, ouais, c'est de dire, voilà, quand c'est super, quand c'est moins bien, c'est moins bien.
On peut t'en vouloir pour ça? T'as déjà eu, du coup, tu t'en es déjà
pris
plein
la gueule.
Je vais
pas donner ma blacklist, mais ouais, bien sûr.
Ça t'est déjà arrivé d'avoir un résultat, un film qui finalement est le résultat d'un malentendu. C'est-à-dire, tu croyais que tu avais compris la vision.
Non, ça ne m'est jamais arrivé.
En général, vous travaillez dans le même sens.
Ouais, ça ne m'est jamais arrivé.
Tu n'as pas de grosses surprises à la fin, quoi.
Non. Bah, on les travaille, hein, nos petits auteurs et autrices. Donc, non, ça ne m'est jamais arrivé, justement. Non, non.
Il y a des films ou des séries dont tu es particulièrement fière, sans pour autant renier d'autres, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui t'ont tenu plus à cœur et dont tu es très fière aujourd'hui quand tu regardes en arrière?
Alors c'est toujours compliqué, c'est-à-dire de demander si on préfère son fils aîné ou son cadet, donc c'est bien tricky comme question, ma chère Audrey. après, c'est vrai que le film Entre les vagues d'Anaïs Volpé est un film qui a été bouleversant à faire, parce que j'ai presque pas eu d'argent. J'ai beaucoup gueulé pour avoir de l'argent, donc j'en ai eu un peu. Et que c'était septembre 2020, donc si tout le monde se souvient, c'était Covid et tout. Et que vraiment, Anaïs Volpé, avec qui je continue à travailler, va bientôt faire son prochain film, j'espère cette année, a été admirable. Donc maintenant, c'est sûr que j'ai l'étalon Anaïs Volpé. Est-ce que quelqu'un est capable de faire un film avec 400 000 balles en 20 jours, avec Sean Price Williams, qui est un chef opérateur américain exceptionnel, avec deux actrices formidables, Souheila Yacoub et Deborah Lukumena, mais tout ça dans un délire, vu le film. Et ça, la quinzaine des réalisateurs, j'ai trouvé, a été le pour moi la récompense de tout ce travail fou qu'on a fait avec si peu d'argent. Et je ne remercierai jamais assez toute l'équipe d'avoir travaillé, tous les comédiens, tout le monde pour ce film. Voilà, donc ça a été très particulier. D'avoir si peu d'argent et de réussir à faire ce film qui a existé, qui a eu vraiment... Puis Souheila a été nommée Révélation au César. Voilà, on se dit... C'est dans ces moments-là, voilà, où on se dit... Je me suis bien fait chier, mais ça valait le coup.
Et en plus, elle joue dans le dernier Villeneuve. Elle joue dans Dune.
Et oui, parce que Denis Villeneuve, qui ne le dit pas, ce coquin, a vu Entre les vagues. Et c'est sûr, Entre les vagues, qu'il a casté Souheila Yacoub.
Ouais, c'est énorme.
Voilà.
Ouais, ouais. Ça fait quoi quand t'as un film qui est sélectionné à Cannes? Quelle que soit la sélection. Hein.
Ah, on est trop contents. On est trop contents. Parce que c'est ça, en fait. C'est que quand on fait des films comme ça, avec les tripes... Je pense que quand on fait des films, il y a des fois où on a été moins heureux, entre guillemets. On était contents, mais moins heureux. Et là, c'était vraiment, je sais pas, le truc le plus beau, quoi. Parce que c'était si compliqué à faire.
Les récompenses, les sélections... Elles sont toujours vécues comme des petites consécrations où finalement, bah, le plus important, c'est de sortir le film. Après, advienne que pourra.
Non, on est trop contents. Ouais, on est trop contents. Après, juste le lendemain. Ce qui arrive dans ce métier en permanence, c'est que vous avez une excellente nouvelle. Et puis, deux heures après, il y a machin qui vous dit non, mais je vais pas prendre ton film, en fait. Et donc, c'est ça toute la journée. Toute la journée, on passe par des hauts et des bas. Parfois, il y a trois jours de haut et quatre jours de bas. Et voilà. Donc, on est dans des dents de scie. C'est un métier comme ça. C'est pour ça que les gens qui durent, c'est pas les meilleurs, c'est les gens endurants. Il faut être endurant dans ce métier. C'est une course de fond, quoi.
Qu'est-ce qui te fait rêver ?
Dans mon métier ? Je disais ça tout à l'heure à une de mes autrices qui fait son premier film, et j'ai dit, j'espère qu'on va faire un Marvel ensemble, quoi. Ça veut dire faire des films ambitieux. Marvel, je déconne, j'en ai rien à foutre des franchises américaines, mais faire des films ambitieux que les gens voient au cinéma et avec des grands moyens et tout casser, quoi. C'est ça qui est chouette, quoi.
À quoi tu voudrais t'essayer et que tu n'as pas encore fait ?
Eh ben, la même chose, voilà. Film d'action, je trouve ça cool. Film, des films qui sortent de... En fait, nous, on dit toujours qu'on a fait un truc, on le fait plus. Donc, ça veut dire que moi, les gens qui viennent me voir, par exemple, les gens qui viennent me voir après Entre les vagues en me proposant des films sur le théâtre et la maladie, je fais bon, bah, salut. Les gens qui me proposent des documentaires sur l'Ukraine alors que j'ai déjà fait Trancher, non. Donc, c'est toujours de faire quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est ça qui m'amuse.
À part cette redite, il y a des trucs sur lesquels tu n'irais pas, genre le film d'horreur ?
Ça dépend, non ? Si c'est super bien fait, si c'est un concept, pourquoi pas ?
T'as pas de limite particulière, quoi ?
Non, à part si on se fait chier, quoi. Ouais.
T'as le temps encore d'aller voir des films ?
Ah, bien sûr. Bah, sinon, ça sert à quoi de faire ce métier ?
J'ai connu un metteur en scène qui me disait qu'il n'allait jamais au théâtre parce qu'au théâtre, il se faisait chier. Ouais, ce qui m'avait profondément choquée, quand même. C'est encore une blague aujourd'hui avec les anciens étudiants qui avaient ce type en prof. Et du coup, je me demande, en fait.
Mais c'est ma passion, moi. Quand j'ai une soirée toute seule, sans personne, je vais au ciné. Je n'appelle pas mes potes. Et je fais deux films de coup sur coup. Hein, j'adore. Non, bah, sinon, il faut arrêter de faire ce métier, en fait.
Qu'est-ce qui t'ennuie au cinéma ?
La prétention. La prétention, l'entre-soi, de la paresse, l'absence de mise en scène...
L'entre-soi.
D'histoires qui parlent à trois personnes, on s'en fout complètement, il n'y a aucune universalité, on n'a pas essayé de pousser la chose plus loin, quoi. Mais il y en a beaucoup, énormément. Des petites histoires qui n'apportent pas grand-chose. On peut partir de petites histoires et faire beaucoup de choses, évidemment. Il y a un refus de la dramaturgie en France. Il y a quand même un refus, par exemple, les acteurs. Moi, je suis fascinée par les acteurs anglo-saxons qui sont d'une certaine manière dans la vie, et puis qui se transforment. Moi, quand je vois Bradley Cooper dans Maestro, je sais pas, il est extraordinaire. C'est pas juste qu'il est beau, c'est qu'il est juste dingue. Tous ces acteurs-là, ils sont fous, quoi. Le Bonello, j'ai vu La Bête, le dernier Bonello. George MacKay, c'est de la folie pendant tout le film. Et après, quand on regarde un peu ses photos dans la vraie vie, mais c'est pas du tout la même personne. Et je trouve que le naturalisme français est compliqué. Après, c'est les cinéastes. Hein. Je pense que les acteurs accepteraient sûrement de bosser, je sais pas. Ça doit être un ensemble, en fait. C'est le système qui est comme ça, du naturalisme. Alors que ça serait plus cool d'aller vers de la fiction.
Est-ce qu'un film qui parle à tout le monde, c'est donc... Tu me corriges, hein, mais est-ce que donc c'est un film qui a une portée politique ? Politique au sens large, hein.
Ça dépend ce que tu mets derrière politique.
Un film qui dit quelque chose de notre époque.
Les films qui racontent la société sont éminemment politiques, évidemment. Bah, c'est vrai que nous, on est connus pour faire ce genre de film. Mais après, c'est plus aussi des affinités avec les cinéastes de voir ce qu'ils veulent défendre aussi. C'est sûr que oui, moi j'ai toujours cette ambition-là. Après, il faut que ça colle avec l'image qu'ont les cinéastes du film qu'ils veulent défendre. C'est pour ça que parfois, quand tu demandais tout à l'heure est-ce que j'ai été déçue par des films ? Non, normalement, on a la même image de film. Mais oui, le but, c'est que ça soit pas un film de plus, que ça soit un film qui raconte quelque chose de la société ou des sentiments. Moi, j'aime beaucoup les films de sentiments, les films à la Claude Sautet qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, malheureusement, mais c'était des films magnifiques qui racontaient la société, mais à travers des histoires d'amour, à travers des amitiés, qui étaient éminemment politiques, sans le dire. C'était le sous-texte.
Pour la gloire, et pour la gloire. Mon petit nom sur le peignoir, motif léopard. Dimanche soir, bébé bras pas du noir. Ma méchante sexe c'est bien juste d'entrer dans l'histoire. Salto arrière dans le vide, au cœur de la mêlée. Loin des lumières de la ville, drapé de fumée. Majeur en l'air, érectile dans le barillet. Tête en bas, vive on se couche demain. Vitamine C, après le cul j'ai toujours faim. CQFD baisse les yeux et lèche mes requins. Tous à poil, couché sous les étoiles. Hédoniste indéniable, que loué soit le diable. La fin tarde, d'ici là prenez garde. Ce sont tous des bastards. Couché sous les étoiles, tous à poil, couché sous les étoiles. Salto arrière dans le vide, au cœur de la mêlée, loin des lumières de la ville, drapé de fumée. Majeur en l'air, érectile dans le barillet. Les adversaires dans le bide, garrosse mariée. Ça sent la poudre, vieil empire, fini la répré. On fera l'amour sur tes ruines pour commémorer. On est des 12, on est 1000, puis le monde entier. Pour la gloire, et pour la gloire.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Caroline, est-ce que tu veux bien me parler de ta playlist, s'il te plaît?
Oui. Alors, je me suis dit que c'était... Je parle de manière globale?
Ouais.
Je me suis dit que c'était chouette de faire une playlist que les gens ne connaissent pas, parce que sinon, j'allais donner du Feu Chatterton que j'adore, du Hervé que j'adore, des gens que j'adore, mais que je me suis dit tout le monde connaît, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, je me suis dit... Je vais faire une playlist de chansons que j'adore. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte en cherchant, parce que je me suis bien pris la tête, que finalement, j'écoute énormément de musique et que la musique que j'écoute toute seule et la musique que j'écoute avec des gens n'est pas du tout la même. Et donc, j'ai pris des choses plutôt festives.
Ouais, donc alors j'ai trouvé que c'était à l'image de ce qu'on m'avait dit de toi, c'est quand même assez énergique.
Voilà, alors The Knife Pass This On, c'est vraiment mon titre préféré de soirée, je dois avouer. Moi qui vieillis, bien sûr, je ne danse presque plus, et là j'adore danser sur cette musique. Voilà, c'est ma musique de soirée. C'est-à-dire que si ça passe en soirée, je danse comme si j'avais 14 ans et demi. Tropico avec Cesare Cremonini et Fabri Fibra contre la Bendo. C'est une chanson italienne et que j'écoutais. En fait, je vais souvent en vacances en Italie. Dans la voiture, il y a Rai Italia à Nice et Santa. Et ça passait tout le temps et c'était le hit de l'été. Il y avait un truc pareil, je sais pas, on est en Italie. Quand on écoute cette musique, je sais pas, quand on est déprimé, si j'écoute cette musique maintenant, je pense à l'Italie, le soleil, tout va bien. Si on déprime, on peut écouter ça. Oui, j'ai failli mettre The Weeknd, Save Your Tears. Et je me suis dit que tout le monde connaissait. Donc j'ai mis celle-là. Alors, de Romeo Sextape, VV Aline, ça, c'est parce que je suis allée au festival de musique et il y avait ce groupe, Romeo Sextape. Je crois que le mec, en plus, est chef électro, assez marrant. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, cette musique, lui avec son acolyte. Et dans ce festival, à 18h30, où il n'y avait personne, on était 5, parce que les gens arrivaient plus tard. Et je trouvais qu'il dépotait sur scène. Et je continuais à écouter la chanson. Je ne les connaissais pas avant. Et enfin, Altingun, Leyla, j'adore ce groupe turc.
Oui, alors voilà, c'est du turc, hein. C'est du rock turc, en fait.
C'est du rock turc, ouais. Mais je crois qu'ils habitent à Amsterdam, hein. Ils habitent aux Pays-Bas. Et pareil, c'est encore un truc festif, c'est-à-dire que c'était le 6 juin 2020. Il y avait la réouverture de l'Olympia pour le premier concert après le confinement. Et j'étais allée pour Catastrophe, que j'adore, ce groupe avec Blandine Rinkel, là où ils font des comédies musicales et tout machin, édité par Burgala. Et après, il y avait Altingun et c'était génial. Pour moi, c'était la sortie du confinement.
Ça fait déjà deux, trois fois que tu dis le mot confinement. Ça a été quoi ton confinement?
Ah bah c'est... le confinement.
Ouais.
Ah mais qu'est-ce que ça symbolise ou qu'est-ce que c'est?
Alors les deux. Comment tu l'as passé?
Et bah moi, je l'ai passé
presque
à...
logistiquement, tu vois. Et qu'est-ce que ça représente?
Et ben je l'ai passé à préparer les films de Emma Benestan, Fragile, et Entre les vagues, Anis Volpé. Et donc j'ai préparé quand même deux films que j'ai tournés coup sur coup. Je m'en souviens parce que c'est tellement...
Deux premiers films.
Et j'ai préparé pendant le confinement et j'ai tourné 31 août et 7 septembre. Donc en plus je les ai préparés en même temps, je les ai financés en même temps et je les ai ensuite tournés presque en même temps. Et donc j'ai... Mais il y a un avant et un après dans le cinéma. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'avant, les gens allaient au cinéma et maintenant, les gens ne vont plus au cinéma. Donc, quand tu me demandais si moi j'y allais, ouais, moi j'y vais, mais je vois bien que les gens n'y vont plus. C'est comme si on parlait de poésie, le cinéma. Ce n'est plus du tout au centre des préoccupations. Il y a évidemment des énormes succès, mais qui cachent la forêt. Et les gens ne parlent plus que de séries. Les gens restent chez eux, regardent des séries. Ce n'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. Hein. Je dis juste que ça a bouleversé notre milieu, en fait. Et qu'on a eu de la chance, parce qu'on a été soutenus par les pouvoirs publics. Il faut quand même se le dire, mais même la France entière, pas que le cinéma, mais le cinéma a été particulièrement aidé. Donc en fait, pendant 2 ans, on a été sous perf, et puis là on se prend un peu le contre-coup de la réalité, maintenant, c'est une autre vie.
Est-ce que ça change quelque chose en termes de prise de risque ?
Ouais. Il y a des propositions qu'on m'envoie que je ne fais plus, parce que je sais que c'est à amener les gens... les cinéastes, que c'est pas être responsable face aux cinéastes, que en fait ça ne va pas marcher. Mais encore une fois, hein, je me plains pas, on est dans une profession, ça va, hein, on fait plein de choses.
T'es souvent approché par des réalisatrices ou des réalisateurs qui ont à défendre un premier film ?
Ouais, parce qu'on en fait pas mal, donc oui.
Ouais. C'est comme si t'étais un peu genre connu pour ça et donc on s'adresse à toi. Comment ça se passe ?
Comme j'ai fait Fragile et Entre les vagues, en tout cas en fiction, tranché en docu, oui, ça a été aussi vu. Mais oui, les gens viennent me voir pour parce qu'ils ont envie de commencer une collaboration. Après, moi, je suis contente de travailler avec des gens qui ont fait aussi d'autres films parce que c'est-à-dire ça permet d'avoir des relations différentes avec les cinéastes. Les premiers films, c'est j'adore ça, mais c'est un accouchement, quoi. Faut amener quelqu'un à comprendre d'une idée comment il va réussir à l'amener vers le public.
Ça, c'est ta façon de travailler. Comment tu en es venue à travailler comme ça ? Est-ce qu'on devient productrice sur le tas ? Ou est-ce que toi, par exemple, tu as suivi un cursus pour ça ?
Non, pas du tout. Moi, je savais même pas ce que c'était être producteur. Donc, moi, je devais pas du tout faire ça dans ma vie. Moi, je voulais être professeur de lettres classiques pour faire comme ma mère.
Tu voulais être prof de lettres classiques ? Ouais. Du coup, tu maîtrises le latin et le grec ?
Bien sûr, j'en ai fait 15 ans. Je suis même allée jusqu'à la maîtrise, donc je suis allée très loin.
Alors, je savais pas ça du tout hein, quand j'ai fait mon petit truc sur l'étymologie du mot gueule.
C'est marqué nulle part. Mais, et en fait, en arrivant en Cagne, je me suis dit, ah ouais... Et là, ça me fait bien marrer de le dire à la radio, si un jour, ce prof horrible de Cagne m'écoute... Je suis très contente qu'ils m'écoutent. Ils étaient horribles, mes profs de latin grec en Cagne. Alors que c'était ma passion depuis tellement longtemps. Et en fait, ils m'ont dégoûtée. Et je me suis dit, ah ouais, mais si je deviens prof de lettres classiques, je vais être avec ces gens-là. En fait, ça va être mes collègues, ça va être ça, ma vie. Et je me suis dit, c'est pas ça, ma vie. Comme dirait Guillaume Auguste dans Fragile, c'est pas ça, mes rêves. C'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Et là, je me suis dit, ok, donc va falloir changer, va falloir rebooter. Et j'ai intégré une école de commerce qui n'était pas du tout...
Ah oui, non, pas du tout, quoi.
Pas ouais. Du tout mon truc. En fait, les profs de prépa éco, moi, j'étais en littéraire, sont venus nous voir en disant « Ouais, il n'y a pas assez de gens qui intègrent et tout, venez. » Donc, on est allé avec 3 potes en disant « De toute façon, on s'en fout, on y va. » Et on a intégré. Donc, c'était un peu la blague. On ne pensait pas du tout intégrer. On n'a pas intégré Normal Sup. Pour moi, c'était un échec. Et j'ai intégré cette école. Mais ce qui a été cool, c'est qu'elle m'a donné... Bon, là, je suis arrivée, j'étais en déprime, mais parce que le commerce sortant du latin grec, ça fait un peu un énorme fossé. Mais ce qui était génial dans cette école, c'est que quand même, on pouvait faire plein de stages, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et à un moment, je me suis dit, bon, il va falloir me prendre en main. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, pour moi, le cinéma, c'était pas accessible, c'était pas un monde accessible. Moi, j'adorais le cinéma depuis très très longtemps, mais ça faisait pas partie des métiers que je pouvais faire. Et en fait, en me disant, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans la culture qui m'intéresse ? Parce que je voulais pas faire quelque chose qui soit rentable. Rigolo maintenant d'avoir une boîte. J'ai commencé à faire des stages dans le cinéma. C'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris goût. Et mon premier boulot, c'était dans une boîte de vente internationale. Donc, c'est les gens qui vendent les films. Ça veut dire que quand vous avez un film hongrois, s'il y a un film hongrois qui passe en France, c'est parce qu'il y a un vendeur qui a vendu le film à un distributeur français. Et donc, moi, j'étais aux acquisitions de cette petite boîte. Et en fait, j'ai fait ça 4-5 ans et c'était super. J'allais dans tous les festivals. C'était dur parce que c'était une petite boîte. Donc, par rapport aux grosses boîtes, c'était compliqué. Mais j'ai eu une liberté assez géniale. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon futur associé, Bruno Naon, à qui je voulais acheter Louise Wimmer, que je trouvais dingue. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, lui, il est super. Il a un enthousiasme, une énergie. Et c'est comme ça que je suis allée travailler avec lui, en me disant, de toute façon, il faut bien se lancer, parce qu'à un moment, lire des scripts et acheter des trucs, bon, c'est sympa 4 ans, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, parce que c'était pas ma boîte. Donc je voyais bien qu'à un moment, j'allais tourner en rond, quoi. Et donc, je suis allée avec lui. Et après, on a créé... pendant 2 ans, j'ai bossé avec lui dans son ancienne boîte Zadig, qui a été fondée par Paul Rosenberg, qui faisait principalement du documentaire télé. Et lui, il avait commencé à faire de la série. Il a créé Ainsi soit-il. Et il venait de faire Louise Wimmer. Il avait fait Les Invisibles, le documentaire de Lifshitz. Et donc, je trouvais ça génial de faire de la télé, du documentaire, de la fiction. Parce que plein de producteurs font que de la télé ou que du cinéma. Et ça, c'était sa grande force. Et donc, après, on a créé Unité en 2014. Moi, c'était pas du tout écrit que j'allais être productrice. C'est pour ça que quand mes enfants me disent « Ouais, attends, moi, je veux faire ci, ça, ça », je fais « T'as du temps, là ». Je trouve qu'on demande aux jeunes, si je peux dire un truc un peu politique et sociétal, je trouve qu'on demande aux jeunes de se spécialiser à 17 ans, ce qui est une hérésie, ce qui est une débilité profonde, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire à 17 ans. Et que je trouve que on devrait pouvoir être capable de faire des études généralistes et de se dire à 25 ans, après avoir fait de la bio, tiens... j'ai hyper envie d'être chef de produit marketing chez L'Oréal ou d'être maraîcher ou d'être je sais pas quoi en fait. C'est fatigant que les études servent à trouver un métier. Ça fait des énormes fractures sociales et des inégalités dans le pays.
Avoir plutôt confiance en toi parce que tu vois, moi j'étais en Cagne aussi, j'étais en lettres modernes. On est venu nous chercher aussi pour aller visiter cette école de commerce qui était à Sophia Antipolis, etc. Et en fait, moi j'avais trop la trouille quoi. J'avais trop la trouille de me retrouver dans un univers que je connaissais pas du tout. Je connaissais que la littérature, tu vois. Et toi, tu y as été quoi. Et tu t'es pas dit à un moment donné, tu t'es pas dit qu'est-ce que je vais faire là-bas. T'as pas eu peur d'être totalement à côté de la plaque.
Si, mais il faut faire les choses. Il faut faire les choses et réfléchir après. On dit souvent ça, nous. Je suis unité. Il on fait et après on réfléchit. Je rigole hein, quand je dis ça, mais en fait, c'était soit aller à l'ESSEC, soit aller en licence de lettres classiques à la Sorbonne avec, je dis pas... Ma mère, elle va s'arracher les cheveux si elle écoute, mais... avec des gens des primes. Parce que les gens qui font des lettres classiques... On n'a pas réussi à pimper les lettres classiques. Ça veut dire que ça n'a jamais été... À part ma copine avec qui j'ai fait le blog, dont tu parlais au début,
ouais.
Qui était ma grande pote de lettres classiques, avec qui je faisais des versions grecques et latines et tout, qui est une fille super et qui est drôle. C'est ma seule amie en lettres classiques, quoi. Ça veut dire que les autres gens, ils sont un peu des primes. Je ne sais pas pourquoi ça attire les gens des primes, le latin et le grec. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est en train de disparaître, malheureusement. Alors que c'est génial de rentrer dans les textes. J'adorais ça. Je trouvais ça dément de lire des textes d'il y a 2000 ans, de se taper du Aristophane et tout ça, du Démosthène. C'était génial, quoi. Mais bon, apparemment, mon enthousiasme pour les classiques n'a pas du tout été universel. Et donc, non, quand je suis arrivée dans l'école, quand même, j'ai un peu déprimé. Mais je me suis un peu... Je sais pas, je me suis dit, de toute façon, faut y aller, quoi. Faut faire un truc.
Mais du coup, tu faisais quoi? Il y avait des matières que tu n'avais jamais touchées, non?
Oui, non, mais c'est pas compliqué quand même.
Ah ouais? Vas-y, montre-moi à quel point j'ai raté ma vie. Parce que moi, je suis devenue prof après. Hein. Moi, je suis devenue prof de lettres modernes. Alors montre-moi ce que c'est, Caroline.
Mais non, c'est bien ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait comme cours? Il y avait.
Genre, il n'y avait pas de l'écho?
Si, mais c'est cool l'écho. Non, c'est intéressant la macro-écho. La micro-écho, c'est très chiant. Parce que je me souviens, j'avais un prof qui était fou. Qui notait des équations au tableau. Donc moi, en plus, j'avais pas fait de maths depuis je sais pas combien de temps, je comprenais rien, je m'étais tapé un rattrapage de maths. C'était l'enfer. Mais je tiens à dire, là, maintenant, 20 ans après, que j'ai validé. Donc voilà. Mais la micro-écho, j'ai rien capté. Je crois que j'ai eu 10,01. La macro-écho, c'est génial. C'est Keynes, c'est tous les économistes, le capitalisme. Alors, ce qui est génial dans une école de commerce, c'est qu'ils sont tous tellement à droite. On a le droit de dire des trucs comme ça,
ouais,
ou pas?
Ouais, grave.
Ils sont tous tellement
quand même
à droite.
Sur une radio de gauche, hein, on va le dire, ouais. Quand même.
Donc, c'était un autre monde, quoi. Moi, j'étais avec des intellos, avec des pantalons élimés, il draguait avec un livre de poche dans la veste, quoi, Kierkegaard, attends, machin. Donc moi, j'étais avec des gens comme ça, et là, je me retrouve avec, attends, j'ai une BM, tu vas aller à Deauville, je fais... Donc ça a été un peu dur sur ce niveau-là. Mais comme toujours, il y avait des électrons libres dans cette école, qui fait que quand même, une grosse partie de mes amis vient de cette école. Parce que quand même, il y a un moment...
Alors j'allais te demander, ouais, du coup, si tu t'étais fait des amis quand même.
Beaucoup.
Ah ouais.
Beaucoup, qui vraiment et qui me font tellement rire et que j'adore et qui font des choses soit très banque, machin, tout ça, bon voilà, ou soit créatif, mais c'était chouette. Ouais.
Et est-ce que tu as appris des trucs dans cette école qui te servent aujourd'hui dans ton métier?
Ouais. Alors je vais rendre hommage à Bertrand Feff, qui est un producteur que j'aime beaucoup, qui a fait la même école que moi et qui a dit la seule chose que j'ai appris, c'est où chercher l'info. Et il a hyper raison. C'est comment se débrouiller dans la vie, quoi. C'est où chercher l'info, comprendre ce qui se passe. Après, c'est sûr que ça m'a permis de comprendre. Après, ce qui est rigolo, c'est d'avoir monté une boîte. C'est que bah, quand j'ai monté une boîte, moi, j'étais pas forcément financière. Quand je cherchais du boulot, c'était rigolo. Les gens me disaient toujours, non, mais vous êtes plutôt côté artistique ou côté financier? Je fais, bah, je sais pas, les deux. Ah non, c'est pas possible. Donc ça, c'est la France de... Donc à un moment, je me suis dit, bon, je vais dire que je suis plus au côté artistique, parce que de toute façon, financier, non, c'est pas vrai, quoi. Mais c'est vrai que je capte, je comprends. Cette école m'a permis ça, de comprendre. De chercher l'info, de l'analyser, de comprendre. Donc c'est vrai que quand j'ai monté une boîte, après, bon, bah, les fichiers Excel, je comprenais, ouais.
Caroline, est-ce que tu veux qu'on passe à la phase des cartes de couleur?
Ouais.
Est-ce que tu veux voir les cartes?
Non.
Oh, à chaque fois, ça m'étonne les gens qui font ça.
Bah, c'est comme d'être allée à l'école sans me dire que j'allais loser, quoi. J'ouvre, c'est ça? Le rôle de ta vie. Oula. Et si, faut que je dise,
si ça t'inspire, hein. Si ça t'inspire pas, on passe. Je sais pas. Est-ce que si on le transpose pour toi, on va dire que t'as plusieurs casquettes dans ton existence. Tu n'as pas le droit de me répondre. C'est quand je me sens maman.
Non, ah ouais, non. Je sais pas, j'allais surtout pas dire ça. Ouais, bah on va passer.
On va passer.
Je sais pas quoi répondre du tout, ouais. J'allais pas du tout dire ça. Mais je les kiffe, c'est pas vrai, mais. Livre. Ah, bah ça, c'est facile. Ça, c'est Belle du Seigneur. Que j'ai en poche, en NRF, blanche et en Pléiade. C'est le livre. C'est mon livre d'adolescence. que j'ai adoré. D'ailleurs, je fais exprès, mon ami avec qui j'ai fait le blog déteste ce livre. Donc on s'était embrouillé, on a failli ne plus être amis à cause de ce livre parce qu'elle le déteste. Et moi j'adore ce livre. Je trouve que c'est
sublime. Tu crois que ça existe encore aujourd'hui des jeunes qui se disputent pour un livre de littérature?
Je sais pas. Mais nous on était un peu hardcore quoi. On était Kierkegaard dans la veste pour draguer des gens quoi. C'était sûr que non, j'adore ce livre, je le trouve sublime.
Comment est-ce que tu es tombée sur ce livre? C'est comme ça la curiosité.
Je te rappelle que ma mère est prof de lettres classiques.
Donc c'est elle qui t'a proposé?
Non, c'est pas qu'il m'a proposé, c'est qu'il y a des bouquins partout chez moi. Il y avait des bouquins partout chez
moi.
Donc
c'est un peu le hasard.
Non, je sais pas.
C'est pas un prof. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un prof qui t'a demandé de le lire pour l'étudier.
Non, c'est que je savais que c'était bien. Je sais pas comment dire. C'est que là, par exemple, mes enfants, ils me disent quand est-ce qu'on a le droit de regarder Pulp Fiction. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on sait que les trucs sont bien. Et donc je me souviens, c'était pendant, je crois que j'avais le bac à passer de lettres ou je sais pas quoi. Bon. Et ma mère, du coup, avait caché le livre parce qu'elle me disait tu ne trahis pas ton bac. Et donc elle cachait le livre et je le retrouvais, je le lisais en cachette. Et après, j'allais le remettre dans la truc. Elle m'a dit « Oui, j'ai vu que t'as piqué dans la cachette. » Et donc, la blague, c'est que...
T'étais tellement rebelle, Caroline.
Rebelle sur des livres, ouais, voilà. Ah, moi, je suis pas du tout rebelle, moi. Moi, je suis complètement scolaire. Très, très scolaire. Mais non, j'adore ce livre. Je le trouve sublime. C'est bouleversant. J'ai toujours envie de chialer quand je le relis. C'est magnifique, puisque ça raconte. Voilà, j'invite tout le monde à le lire.
T'arrives à lire encore des livres hein.
Alors moi, ma passion dans la vie, en fait, c'est comme ça. Je pense que comme ça, les gens vont comprendre que je suis quelqu'un de très boring. Mais ma passion, c'est aller au cinéma, aller au théâtre, lire des livres, aller au musée. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Mais je suis un peu chiante, quoi. C'est-à-dire que c'est super chiant. Donc moi, pareil, c'est horrible si mes amis m'entendaient. Moi, je préfère aller au théâtre que voir mes amis. Je préfère lire des livres. Mais ce qui est bien, c'est quand on a des amis avec qui on va au théâtre, quoi. Ou des amis qui lisent, machin. Mais oui, moi, je lis beaucoup. Moi, c'est vrai que toutes mes inspirations, tous les gens que j'ai pu contacter, ça vient de là.
Precipitati in un realismo magico, l'amore è il sesso che diventa panico, Amone ruda ma è melodrammatico, io stronzo e sadico e tu peggio di me, sogno un crash test in un best western, George Best via da Manchester, Mike Tyson che ne paga sette, se contasse l'ansia siamo trendsetter, motorini nella notte scura, puoi veder l'Italia quando si alza il fumo, settimana della moda, invitami alla tua sfilata e ti mando a fanculo, è inutile parlare delle stesse cose. Parliamo sempre di scappare, non ricordo dove. Forse in un sogno che sembrava un incubo, ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando al contrabbando. Giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te la chiede, come stai, come sto, come stai, come sto di merda. Scriveremo ti amo in elvetica, sopra l'Unione Sovietica, cediamo Bocelli all'America, rimpiango la cultura ellenica, Paganini non concede il bis, Sergio Bis, Amadeus porta a Sanremo i Kiss, la trap e la drill, le droghe e le miss, la mafia, la chiesa, poi nasce Peris. È inutile parlare delle stesse cose, parliamo sempre di scappare, non ricordo dove, forse in un sogno che sembrava un incubo ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando al contrabbando. Giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te la chiede, come stai, come sto? Come stai, come sto?
Altro che la notte degli Oscar, in giro da noi solo pazzi. Io frate ne conosco tanti che meriterebbero schiaffi da questi politici nazi, a tutti questi rapper scarsi. Bombe nucleari sulla mappa, qualcuno vada da Putin e gli spari in faccia. Passami il microfono, si rappa.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 19h sur Radio Campus Paris.
Ah oui, il faut que j'en prenne un autre.
Ah bah si tu veux.
Place de parking, place de quoi?
Eh ben, place de parking, tu conduis?
Non, pas du tout, j'ai raté mon permis 5 fois, donc c'était une blague. Place de vélo, moi je suis en vélo tout le temps. C'est quoi place ? Ou c'est ma place dans la société, c'est ça ?
Quand est-ce que tu t'es sentie à ta place ?
Oh, jamais, on est toujours des outsiders. Jamais.
Et est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens mieux qu'un autre ?
Bah là, ici, là.
Dans ton bureau.
Dans mon bureau, j'adore les gens qui travaillent avec moi. Je suis hyper contente de venir tous les jours. Mais moi, j'adore être avec mes associés, être avec mon équipe, j'adore.
Qu'est-ce que tu trouves, je twiste un peu le mot, qu'est-ce que tu trouves déplacé ?
La vulgarité, l'impolitesse, ce genre de choses.
C'est quoi, par exemple ?
Le non-savoir-vivre.
Ouais, c'est quoi un manque de savoir-vivre pour toi ? Donne-moi un exemple de la vie courante, si t'en as un qui te traverse.
À part les gens qui poussent les gens dans Vélib, c'est ça ?
Ouais.
Je sais pas, les gens qui parlent toujours d'eux. Moi, par exemple, c'est très bizarre de faire ce truc-là. Les gens qui parlent toujours d'eux, qui ne demandent jamais comment ça va, qui ne font pas d'efforts. Les gens ne le savent pas, mais je fais des compromis, des efforts en permanence. Parce que c'est le principe de la vie en société et de vivre en collectif. Donc, de faire attention à l'autre, d'avoir de l'empathie.
Est-ce que tu as dû déjà essuyer des paroles déplacées parce que tu étais une femme dans ton métier ?
Oh, sûrement, mais alors... Non, l'autre fois, ça m'a fait marrer. On m'a dit... Ça m'a fait tellement rire. On m'a dit... Ah, mais t'es pas en couple avec ton associé ? Je dis, mais ça va pas la tête. Donc, c'est-à-dire que je réussis parce que en fait, je suis sa femme. Je lui ai redit, il était mort de rien. Et en fait, alors qu'on n'est pas du tout... voilà, chacun a sa vie privée. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment les gens qui pensent que je ne suis là que parce que je suis avec lui. Mais sinon, non, je sais pas. Les gens, de toute façon, ils essayent toujours de vous écraser dans ce milieu. Comme d'hab, hein, faut y aller, faut pas se retourner, parce que sinon on n'y arrive pas.
Ça t'arrive de te mettre en colère ?
Ah, beaucoup, ouais.
Parce que là, t'as l'air cool, t'as l'air de prendre
normal.
Les choses avec du recul.
Je vais pas crier, là.
Mais en vrai, ça t'arrive d'être en colère ?
Ouais. Beaucoup. Mais bon, après, il faut aller de l'avant, quoi, comme d'hab.
Tu l'exprimes ?
Bien sûr.
Tu l'exprimes comment ?
Bah, je gueule, parce que c'est mon mot, là. Puisque c'est mon mot. Bien sûr, ouais. Mais qui est le producteur ne le fait pas, je sais pas, ou alors il est maître yogi, quoi. Je vois pas, je connais pas un producteur qui n'a jamais gueulé dans sa vie. Je sais pas.
Mais tu gueules en soi, comme ça, ou tu gueules sur quelqu'un ?
Ah non, je gueule pas. Non, justement, je ne gueule jamais sur... En fait, je n'aime pas ça, justement, les gens qui crient sur les autres. Moi, c'est plus que j'exprime ma colère avec, justement, mes associés ou mon équipe. Et je leur dis, putain, c'est quoi ce truc ? Fais chier, machin, nanana, et je m'énerve. Quand des gens se comportent mal, comme on disait tout à l'heure, oui, ça a pu m'arriver de m'énerver contre eux. Mais c'est de la réaction. Je m'énerve pas à chaud comme ça. C'est beaucoup un truc de mec, en fait. Je me souviens, il y a un mec que je hais, donc je ne citerai pas le nom, mais je pense qu'il sait très bien que je le déteste dans ce milieu. Et il me gueulait dessus tout le temps. Et à un moment, du coup, je lui ai regueulé dessus. Et puis là, il s'est arrêté parce qu'en fait, c'était ça, les gens. C'est qu'en fait, t'as plein de mecs dans ce milieu qui se croient tout permis et qui se disent que si t'es une femme, t'es une stagiaire ou je sais pas quoi. J'adore les stagiaires, donc c'est pas le problème. Mais c'est pour montrer qu'il y a des gens qui ont des statuts. Et c'est vrai que c'est un truc vachement d'homme de gueuler. De gueuler sur les autres, de s'énerver. Donc moi, je peux être en colère, mais c'est un truc que je fais avec les gens proches. Et je la partage, en fait, cette colère, pour passer à autre chose. Voilà.
Est-ce que tu veux tirer une autre carte ?
Ah oui, alors. Est-ce que tout le monde a les mêmes cartes ?
Non. Livre, c'était la première fois.
Ah, journée parfaite, bah voilà, je sais pas. Allez, alors journée parfaite, ça va vraiment faire la fille qui veut pas bosser. Mais ça serait genre un petit déjeuner, genre un café, un croissant en terrasse d'un café, aller voir un film, ensuite aller au musée, ensuite aller acheter des livres dans une librairie, et ensuite, bah, je sais pas, faire genre que j'ai travaillé et retrouver mes enfants.
C'est trop bien. Et le soir, tu les couches et tu vas au théâtre.
Voilà, exactement.
Ouais, je valide.
Ça serait la journée parfaite.
Complètement cette journée parfaite. Je la partage à 1000%. Est-ce que tu veux retirer une carte ?
Une dernière ?
Si tu veux.
Allez. Superstition. Bah, j'en ai pas. Je suis pas du tout superstitieuse.
Ok.
Adienne que pourra.
Tu touches pas du bois, t'as pas peur de passer sous les échelles, tu peux parler d'un projet alors qu'il est pas assez avancé.
Ah non.
Ça te porte pas la poisse.
Ah non, mais ça, je ne parle jamais des projets quand ils ne sont pas faits, mais c'est autre chose. C'est ça. Ah, tu trouves que c'est des superstitions, ça ?
Moi, j'aime pas trop dire des trucs quand ils sont pas sûrs à 100%.
Ouais,
parce que j'ai
ça,
peur
c'est
que
pas de la superstition, c'est genre normal, c'est de la rationalité de travail. Non, je sais pas.
Je sais pas, j'ai peur que ça me porte malchance
non,
et que ça
moi,
se fasse
pas.
Et puis après, tu sais, la honte aussi de dire, ah ben non, ça s'est pas fait, tu vois.
Mais c'est pas de la superstition, c'est juste du travail, en fait, c'est ma vie en général. Moi, il y a plein de gens qui disent que je raconte rien. Mais c'est pas que je raconte rien, c'est que je dis pas les choses quand elles sont pas faites.
Mais pourquoi ?
Parce que c'est pas fait, donc ça n'existe pas. Et on en parle quand c'est fait. Moi, je serais comme
donc
ça.
C'est dans une forme d'humilité, en fait.
Tout à fait.
Ouais.
Ça sert à rien de parler d'un truc alors qu'on sait pas si ça va se faire, ça n'a aucun intérêt. Mais après, les gens dans ce métier, passent leur temps à parler.
Et bien justement, en parlant des gens de ce métier, Caroline, qui est-ce que tu désignerais pour participer à cette émission ? Qui serait ton meilleur espoir ?
Alors j'ai voulu faire un truc que personne ne fait, comme d'habitude, parce que sinon c'est pas drôle. Et en fait, j'aime beaucoup un duo de deux femmes qui sont autrices, actrices, réalisatrices, et que je trouve super. C'est Tara Lindstrom et Sephora Pondy. Et je trouvais ça cool d'avoir, justement, comme on est toujours dans une société individualiste, je trouvais ça cool d'être avec deux femmes qui travaillent ensemble et qui essayent d'inventer des récits qu'on n'a pas encore vus, de différentes formes, et qui ne sont pas dans une rivalité. Donc ça m'a fait un peu penser entre les vagues que j'avais produit dans ce côté où on crée ensemble, on se soutient ensemble. Et donc c'est pour ça que je leur ai demandé si ça les enthousiasmait de venir te parler.
Trop bien, tu les connais d'où ?
Je vais beaucoup au théâtre. Et j'étais allée voir une pièce parce qu'un agent m'avait invité à voir une pièce pour une metteuse en scène. Et là, je vois Sephora jouer. Et je la trouve extraordinaire. Je me dis, mais qui c'est cette meuf ? Je continue à la voir au théâtre. Je l'avais vue, donc elle est pensionnaire à la Comédie Française. Et en fait, un jour, son agent m'appelle en me disant, mais tu sais, en fait, elle voudrait faire un film avec Tara Lindstrom. Et en fait, je vois Tara Lindstrom, je regarde qui c'est. Et elle faisait plein de courts-métrages avec une autre fille, Inga, elles avaient un collectif. Et je me disais, mais c'est génial qu'elle fasse des trucs. En fait, et en fait, je les vois toutes les deux. Je sais pas, comme s'il y avait Yin et Yang, quoi. Elles me racontent qu'elles sont amies depuis très longtemps, qu'en plus, elles veulent créer leur truc ensemble. Et je les ai trouvées très chouettes. Donc en fait, quand tu m'as demandé, je me suis dit, tiens, c'est super d'avoir ces deux femmes.
C'est une très bonne idée. Voilà. Merci beaucoup, Caroline.
Merci à toi.